Jeudi dernier, jeudi soir, nous avions un temps de prière suivi d'un apéritif comme tous les jeudis de l'été. Il y a encore le dernier du coup la semaine qui vient. Et j'avais choisi pour quelques-unes de ces rencontres de lire des méditations dans un livre que j'ai découvert. Et nous avons lu quelques passages de l'Évangile en se disant, en se faisant un petit peu la réflexion, mais Jésus a eu aussi des paroles qui était dur à entendre. Et il n'est même pas le seul dans la Bible à avoir tenu des propos assez costauds quand même à recevoir. Et Jacques, le frère de Jésus, au début du chapitre 4, vous allez le constater à la lecture que nous allons faire dans un instant, ne mâche pas ces mots non plus. Nous allons lire les 12 premiers versets du chapitre 4 de l'épître de Jacques. Et normalement, le texte s'affichera dans la même version que je vais lire. D'où viennent les disputes? D'où viennent les luttes entre vous? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps? Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Alors vous êtes prêt à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Alors vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez rien. C'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci? Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Ce n'est sûrement pas pour rien que les livres saints disent « Dieu aime très vivement l'esprit qu'il a mis en nous. » Mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent aussi « Dieu résiste aux orgueilleux, il est bon pour les petits. » Alors obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs. Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Soyez tristes, mettez des habits de deuil, pleurez, changez vos rires en larmes et votre joie en tristesse. Faites-vous petit devant le Seigneur et il vous honorera. Frères et sœurs chrétiens, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal d'un frère ou d'une sœur ou qui les juge, dit du mal de la loi et il juge la loi. Et si tu juges la loi, tu n'obéis plus à la loi, tu es son juge. Car Dieu seul qui donne la loi et qui est juge, lui seul peut sauver et faire mourir. Mais toi qui juges ton prochain, tu te prends pour qui? Comme on pourrait dire, comme une expression française le dit, Jacques ne fait pas dans la dentelle. On a même un peu l'impression qu'il exagère. Était-il si terrible, ces destinataires auxquels il s'adresse? En réalité, il force peut-être un peu le trait, mais c'est pour souligner les enjeux tellement importants. D'une certaine façon, il va proposer dans ce texte une dissection de notre cœur, et ce qu'il y voit, ce qu'il y trouve, n'est pas joli joli. Il y trouve un cœur partagé, traversé de motivations ambiguës. Il y voit des racines de tensions et de disputes entre frères et sœurs dans la foi. Il y discerne surtout des frustrations. Lorsqu'il dit « Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. » Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Vous demandez et vous ne recevez pas. Alors nous connaissons tous à différents niveaux des frustrations, parfois difficile à gérer. Et c'est le cas aussi dans notre vie spirituelle. Et ici, Jacques veut nous aider à comprendre, peut-être un peu mieux, d'où viennent ces frustrations et nous aider à les surmonter. Alors, dans son propos, Jacques évoque deux sources de frustration. Tout d'abord, la comparaison avec les autres. Et la deuxième, justement, avoir ce cœur partagé, la duplicité de notre cœur. Alors tout d'abord, la comparaison avec les autres. Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêt à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez, alors vous luttez et vous vous battez. La convoitise et la jalousie, qui sont soulignées ici par Jacques, ont pour racine la comparaison avec les autres. On pense bien sûr d'abord aux convoitises liées aux biens matériels, mais cela reste valable pour tout type de convoitise. Quand on se laisse aller à la comparaison, c'est alors que naissent bon nombre de nos frustrations. Parce qu'il y a toujours cette impression que l'herbe, cette impression tenace, que l'herbe est plus verte dans le jardin ou le pré, j'en sais rien, du voisin. Sauf bien sûr pour ceux qui se pensent tellement supérieurs aux autres, et là, dans ce cas-là, le problème est différent. Et Jacques leur parle aussi en leur disant que Dieu résiste aux orgueilleux, qu'il est bon pour les petits, et il leur donne alors le conseil « Faites-vous petits devant le Seigneur et il vous honorera. » Mais pour tous ceux qui ont tendance à se dévaloriser en se comparant aux autres, alors Jacques nous dit simplement « Arrêtons de nous comparer les uns aux autres. » C'est ce qui crée des frustrations, et même plus que des frustrations, qui se transforment quelquefois en disputes. Et ça peut aller très loin. Arrêtons de comparer nos situations sociales ou familiales. Arrêtons de comparer nos dons, nos ministères, notre cheminement spirituel, notre modèle, notre horizon, notre référence, celui sur qui nous voulons pointer nos yeux, c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas les autres. C'est Jésus-Christ et lui seul. C'est vite dit, j'en ai conscience, lorsque du haut de la chair on dit « arrêtons de faire ceci, arrêtons de faire cela », c'est très facile à dire. La mise en pratique ne se fera pas en un claquement de doigts. Mais il y a des choses qui sont vite dites et qui sont néanmoins justes. Il y a des vérités, beaucoup de vérités que nous connaissons, qui sont faciles à dire et difficiles à vivre. Des fois, on dit qu'on n'applique que 10% de ce qu'on entend, de ce qu'on sait. Je ne sais pas si c'est vrai, ces fameux 10%, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a de la marge de progression entre ce qu'on sait et ce qu'on applique dans notre vie. On peut réellement faire des progrès. Et c'est une vraie libération lorsque l'on parvient à moins faire attention au regard des autres, pour plus faire attention au regard de Dieu. Il y a quelqu'un qui disait que notre progrès spirituel commence à partir du moment où le regard que Dieu porte sur nous est plus important que le regard que les autres portent sur nous. Parce que se comparer aux autres, c'est aussi donner énormément d'importance au regard des autres sur nous. Deuxième source de frustration, notre cœur partagé, notre cœur double, on pourrait dire, la duplicité de notre cœur. Et cette source de frustration se manifeste même au moment les plus profonds de notre vie spirituelle, dans la prière. Il faut avouer que le non-exaucement de nos prières peut parfois être une source de frustration très importante. Je demande à Dieu de m'exaucer et il ne le fait pas. Je lui demande de me donner ceci ou cela et il ne me le donne pas. Je lui demande de me délivrer même de ce penchant ou de cette addiction, mais il ne le fait pas. Alors pour expliquer notre frustration, Jacques va pointer du doigt notre cœur. Vous demandez, vous ne recevez rien, c'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos mauvais désirs. Pour Jacques, demander mal, c'est demander pour satisfaire ses désirs mauvais. Et l'apôtre reprend avec des termes extrêmement sévères ses premiers destinataires, ses premiers lecteurs. Il les traite quand même d'adultères. Alors dans la version que je vous ai lue, c'était « vous trompez Dieu ». Et c'est bien le sens du mot grec au début de ce verset 4. Les Il dit que ces personnes auxquelles il s'adresse sont adultères. Ils sont des gens faux. Dans la traduction que je vous ai lue, à l'âme partagée, dans d'autres versions. C'est cette duplicité du cœur que Jacques pointe du doigt ici. C'est notre ambiguïté à être attiré à la fois par les choses spirituelles, les choses de Dieu, par Dieu lui-même, et en même temps par ce que Jacques appelle ici le monde. Alors ce n'est pas le monde dans le sens la magnifique création de Dieu, etc., qu'il a créé pour que l'homme en jouisse, mais le monde ici est utilisé dans un sens péjoratif pour parler de tout ce qui est contraire à Dieu dans le monde, tout ce qui s'oppose à Dieu dans le monde depuis la chute de nos premiers parents. Tout ce qui va éloigner de Dieu. On ne peut être l'ami des deux à la fois, l'ami du monde et l'ami de Dieu. Le problème, c'est que nous sommes l'hôte des deux. D'où nos frustrations. Et d'où la nécessaire prise de conscience aussi que nous aurons toujours à l'intérieur de nous, au fond de notre cœur, cette lutte intérieure, ce combat à mener en nous-mêmes, entre des désirs qui se portent vers des choses qui nous éloignent de Dieu et les désirs qui nous portent aussi vers Dieu. Le chemin de la sanctification, c'est aussi apprendre à gérer ces frustrations, surmonter ces frustrations, même ces frustrations spirituelles. Même si Jacques utilise ici un langage direct et sévère, il ne veut pas nous laisser pour autant perdus dans nos frustrations et il va nous donner quelques clés pour nous apprendre à les surmonter. Et nous pouvons en discerner trois. La première, choisir son maître et s'y attacher. Obéissez à Dieu, mais résistez au mal, à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. Par cette exhortation, Jacques nous dit que la résistance paye. La victoire est possible. La duplicité de notre cœur peut, petit à petit, s'estomper. Et le mouvement est d'ailleurs double, hein, c'est obéir à Dieu et résister au diable. Il y a une dynamique qui est positive, celle de l'obéissance, qui nous fait avancer, qui nous fait entrer dans les projets que Dieu a pour nous, qui nous fait nous accorder avec sa volonté, et une dynamique plus négative où on est dans la lutte, le combat, où il s'agit sans cesse de résister à l'esprit du mal. Mais pour obéir, je reviens juste un tout petit peu sur cette dynamique positive de l'obéissance, pour nous accorder avec la volonté de Dieu, il faut la connaître, cette volonté de Dieu. Heureusement, nous ne sommes pas dans le brouillard, Dieu nous laisse sa parole et l'Esprit Saint en nous. Et c'est cette même parole et cet Esprit Saint qui nous aideront justement à résister à l'esprit du mal. Cette force qui nous écrase, qui nous détruit, qui nous égare, qui nous disperse, c'est la volonté du diable, nous dit Jacques. Cette volonté, malheureusement, devient trop souvent aussi la nôtre. Cette volonté de mettre en doute ou rester sourd à la voix de Dieu. Comme dans le jardin d'Éden, vous savez, lorsque le serpent a su insinuer le doute au sujet de la parole de Dieu, au sujet de la bonté de Dieu aussi. Pour surmonter nos frustrations, il y a une décision ferme à prendre, choisir Dieu comme maître et lui rester attaché, refuser le diable comme maître et lui résister. Là, encore une fois, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Débusquons-le, cet esprit du mal, là où il se cache ou se camoufle. Traquons-le sans pitié dans les coins sombres de notre cœur. Deuxième piste que Jacques nous donne ici, cultiver la proximité avec Dieu. Et cette piste est bien sûr liée à la première, choisir Dieu comme seul maître, et ensuite cultiver cette proximité avec Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques nous invite à cultiver cette proximité avec Dieu. Elle est réciproque, cette proximité, vécue dans la simplicité, dans l'authenticité. Il s'agit de s'approcher dans la simplicité et l'authenticité de notre Dieu. Dieu n'est pas un maître distant et lointain. Un père, mais il est un père proche et aimant. Je connais quelqu'un qui, c'est un témoignage assez extraordinaire, qui a entendu un jour la voix de Dieu. Et Dieu lui disait seulement cela, c'était en anglais, il lui disait « I'm here », je suis là. Alors je vous raconte juste le témoignage, même si ça n'a rien à voir avec le sujet forcément de la prédication, mais c'était quelqu'un qui était athée, et il discutait dans le train avec son copain, et il se moquait de ceux qui croyaient en Dieu, dans la discussion. Et puis un chrétien qui était assis pas très loin d'eux dans le train a entendu leur discussion, et simplement en sortant du train, il lui a dit à cet homme qui se moquait des croyants, il lui a dit « Tu ne sais pas que Dieu n'existe pas ». Et il est parti, il s'est barré directement, sorti du train. Et en fait, cette petite phrase a fait réfléchir cet homme qui s'appelle Craig. Il s'est dit « Ah oui, c'est vrai que finalement, je ne sais pas que Dieu n'existe pas et je me moque volontiers, en tout cas je parle à la légère volontiers de ceux qui croient en les ridiculisant un peu par mes propos, mais au final, je ne sais pas non plus que Dieu n'existe pas, je ne peux pas le prouver ». Et alors il s'est dit « Bon, ben, si Dieu existe, ben, alors il n'y a qu'une seule solution, c'est faut prier, il faut s'adresser à lui et lui dire « Mais Dieu, si tu existes, montre-moi que tu existes ». Et donc il a décidé de faire cette prière tous les jours pendant 30 jours. Donc il y avait déjà une certaine notion un peu de la persévérance, mais il s'est dit « C'est important, donc je veux savoir si Dieu existe ou non ». Et il a donc fait cette prière « Dieu, si tu existes, montre-toi, révèle-toi à moi ». Fais-toi connaître à moi. Et il a fait cette prière tous les jours pendant 30 jours. Et au bout de 30 jours, il ne s'était toujours rien passé. Alors il s'est dit, bon, je vais quand même encore un peu continuer, parce que si Dieu existe, c'est quand même tellement important que ça vaut le coup encore d'ajouter encore quelques jours, cette prière encore dans quelques jours de plus. Et puis il continue à prier. Puis un jour, il était au volant de sa voiture et puis... Et puis il en avait un peu marre de faire cette prière et il a dit « Dieu, maintenant, si tu existes, montre-toi maintenant !» Et il a entendu, c'est assez miraculeux, une voix qui venait de nulle part, personne n'était à côté de lui, il était seul dans sa voiture, une voix assez forte qui lui disait « I'm here, je suis là. » Dieu n'est pas loin, il est là. Et c'est vrai, il est au-dessus de tout, mais il n'est pas loin pour autant. Je me souviens aussi d'une dame qui, après sa conversion, se disait « Ben maintenant, c'est formidable, que maintenant que j'ai rencontré Jésus, je ne m'ennuierai plus jamais, parce que quand je serai dans une salle d'attente, je saurai à qui m'adresser intérieurement. » Se tenir devant Dieu, cultiver la proximité avec Dieu dans un temps à part, c'est un privilège. Et ce que Jacques nous dit là, c'est que même que c'est un privilège vital. Cela dit, ça ne se fait pas tout seul, il faut le vouloir. Un peu comme dans le témoignage que je vous racontais, persévérer. Et même si on n'entend pas forcément la voix de Dieu tous les jours. Pourquoi il faut le vouloir? Parce que nous avons tous des emplois du temps bien chargés. Des sollicitations incessantes de notre société de consommation. Nous vivons dans un monde où il y a du bruit presque tout le temps et où le silence que nous devons faire pour cultiver cette proximité avec Dieu devient un véritable défi. Nous sommes toujours connectés, dérangés, alertés, notifiés et nos frustrations sont alimentées. Sachons dire stop et cultiver la proximité avec Dieu pour nous ouvrir à la plénitude de sa présence. Et nos frustrations, au moins certaines, s'envoleront. Dans la plénitude de la présence de Dieu, les frustrations au moins certaines disparaissent, peu à peu. De quoi aurions-nous besoin d'autre que la présence du Dieu infiniment bon et juste, tout-puissant, éternel? C'est cela que Paul aussi voulait dire aux Éphésiens, lorsqu'il leur disait qu'ils avaient tout pleinement en Jésus-Christ. Et troisième piste encore, faire le ménage. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs, nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux, soyez tristes, mettez des habits de deuil, pleurez, changez vos rires en larmes et votre joie en tristesse, faites-vous petit devant le Seigneur et il vous honorera. Il faut régulièrement faire le ménage dans notre cœur. Alors chez nous, on le fait, le ménage à la maison, hein. On passe l'aspirateur, on passe la serpillière, etc. Et quelques fois dans l'année, il y a un grand ménage. Et c'est là, en général, qu'on retombe sur ce qu'on avait perdu il y a déjà quelques semaines. Nous avons besoin de faire le ménage aussi dans notre cœur, hein, et c'est cette image que Jacques utilise, purifier votre cœur, nettoyer. C'est-à-dire dans notre cœur, c'est-à-dire dans nos motivations profondes, ce qu'on a à l'intérieur. Prendre le temps peut-être de nous écouter, prendre du recul sur nous-mêmes. Alors on peut faire ce ménage régulièrement comme une hygiène de vie spirituelle. J'étais toujours impressionné de quelqu'un qui me disait que tous les soirs, il arrivait à faire le bilan de sa journée. Sacrée discipline, hein, tous les soirs, faire le bilan de sa journée. Ouais, au moment de se coucher et de s'adresser encore à Dieu avant de s'endormir. Et de temps en temps, notre cœur a besoin aussi peut-être alors d'un grand, plus grand ménage, plus en profondeur, par une retraite spirituelle, avec l'aide peut-être d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un de confiance. Alors quelques mots de conclusion. Nous avons tous des frustrations de différents ordres, et nous avons à les gérer dans notre vie. Si nous en manquons d'ailleurs de frustration, la société est toujours là pour nous en proposer de nouvelles. Ces frustrations, lorsqu'elles sont alimentées, pourrissent notre vie et nos relations aux autres, surtout quand elles trouvent racine dans la comparaison avec les autres. En Jésus-Christ, nous ne sommes pas appelés évidemment à la frustration, mais à la plénitude. Que Dieu fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enraciné et fondé dans l'amour, vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu, dit Paul en Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. C'est cette plénitude de Dieu en Jésus-Christ que nous pouvons et nous voulons connaître dans la communion avec Dieu pour vaincre nos frustrations et ainsi vivre dans le contentement et la reconnaissance. De quoi aurions-nous besoin d'autre que de la plénitude de Dieu ? Amen.